Que veut dire une politique anticapitaliste à l'heure du capitalisme absolu? C'est la question posée par Étienne Balibar, notre invité de cette seconde partie de la Grande Table, consacrée aux idées, une des questions plutôt, devrais-je dire, à l'issue d'un demi-siècle de réflexion et d'engagement en faveur d'une alternative communiste et socialiste, et que vous formulez, Étienne Balibar, dans le premier volume de recueil de vos écrits. Vous avez en effet initié, avec les éditions de La Découverte, une entreprise éditoriale d'ampleur, réunir et rendre lisibles les grands axes de votre travail philosophique. Chaque volume, il y en aura 6, s'organisera autour d'un thème principal pour en explorer la généalogie et les implications dans l'actualité. Voici d'ailleurs un premier axe auquel nous pourrions nous raccrocher, ce lien entre la théorie et l'action. Nous aurons l'occasion d'y revenir en évoquant Histoire interminable d'un siècle l'autre, premier volume de vos écrits. Quelques mots tout de même pour vous présenter. Je le disais, vous êtes philosophe, ancien élève de l'École normale supérieure, vous avez notamment suivi l'enseignement de Louis Althusser, avec lequel vous avez aussi...
Pas seulement,
c'est pour ça que j'ai dit notamment. laquelle vous avez collaboré avec Althusser. Bon, vous nous en parlerez peut-être de votre relation avec lui, puisque c'est l'objet aussi du second volume, dont il sera peut-être un peu moins question aujourd'hui, car plus théorique, mais que sait-on, peut-être on verra où nous mène la conversation. Aujourd'hui, vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 10 Nanterre, après avoir enseigné, non pas seulement à l'Université d'Alger, Columbia Université de New York, ou encore à Birkbeck College de Londres. Ses écrits, Étienne Balibar, proposent une forme d'enquête prospective et rétrospective. Je reprends là les termes qui sont employés sur le quatrième de couverture. Quelle en est la démarche?
C'est une réponse à une proposition qu'on m'a faite. Et comme souvent dans la vie, au fond, j'ai décidé de me laisser solliciter, interpeller par d'autres. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, j'ai aucune initiative là-dedans ou aucune idée de ce qu'il faut faire, mais je me suis souvent trouvé très bien de laisser aux autres le soin de me dire un peu ce qu'ils attendaient. Bon, alors en l'occurrence, je ne veux pas rentrer dans des récits interminables, mais d'abord, je voudrais dire que les éditions La Découverte qui ont elles-mêmes succédé aux éditions François Maspero, dont je pense qu'un certain nombre de gens quand même se souviennent encore aujourd'hui, sont en quelque sorte ma maison. C'est l'une de mes maisons. J'ai travaillé avec d'autres éditeurs, en particulier récemment avec Galilée. À La Découverte, je suis chez moi d'une certaine façon depuis toujours. Bon. Et je leur avais promis depuis longtemps un volume de textes choisis sur la question du communisme, qui semble-t-il revenait d'actualité et dont on pensait à tort ou à raison que j'y avais été, qu'elle me tenait à cœur ou que j'y avais été mêlé de façon étroite. Bon. Et ce volume ne se faisait pas. Je n'en trouvais pas le temps. Je me rendais compte que les choses avaient beaucoup évolué dans la dernière période, qu'il y avait des tas de thèmes intéressants, les communs, d'autres encore auxquels il fallait que je réfléchisse. Alors je leur ai dit, vous savez, ce volume n'est pas prêt. J'essaierai de le faire, bien entendu, mais j'ai une autre idée en tête qui m'est venue comme ça après avoir été amené à écrire coup sur coup trois textes de réflexion rétrospective, comme vous le disiez tout à l'heure, sur certains des grands événements du XXe siècle qui nous ont fait, les gens de ma génération. Bon, il y a évidemment mai 68 à quoi j'ai participé, mais il y a aussi la révolution russe, la guerre de 14 et tout. Bon, et je me suis dit, ça serait pas mal d'essayer de mettre ensemble quelques essais que j'ai écrits à différentes époques, hétérogènes entre eux évidemment, qui réfléchissent d'un siècle l'autre à ce qu'a été la transformation du rapport entre l'histoire et la politique. Et ça leur a donné l'idée de... Ils ont fait banco, ils m'ont dit mais non, pas un volume, mais plusieurs, on va choisir les thèmes ensemble, etc. Et je me suis dit, comme ça, j'aurai quelque chose à faire jusqu'au moment où je pourrai plus travailler.
Mais non, voilà, ça donnera 6 volumes, je l'ai dit, le premier consacré, comme vous venez de le dire, à l'histoire interminable, à ce passage du 20e au 21e siècle. Mais il y aura aussi un deuxième volume qui est publié en même temps sur la passion du concept épistémologie, théologie et politique, puis ce sera l'avenir du racisme, le marxisme.
Il y aura un volume sur la race et le racisme. Il y aura un volume sur le cosmopolitisme aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre, la traduction, le multiculturalisme. Il y aura en effet, peut-être, sans doute, enfin en principe, ce volume sur le communisme annoncé depuis longtemps. Et puis, si j'y arrive, j'essaierai de dire quelque chose sur ce que peut être aujourd'hui la critique de l'économie politique au sens où Marx l'avait imaginé autrefois.
Vous avez dit, on me prêtre à tort ou à raison, une parenté avec le communisme. On pense que j'ai un long compagnonnage, pour reprendre un terme qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Pourquoi à tort ou à raison, Étienne Balibar?
Non, à raison. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Bon. Mais ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que la notion de communisme avec le temps, et c'est très bien comme ça, évidemment, en est revenue. D'abord, elle a toujours, c'est un point important, je crois qu'il faut le dire très clairement, très explicitement, elle a toujours recouvert, non pas un seul et unique type d'engagement et a fortiori d'appartenance à des structures organisationnelles, mais une très grande multiplicité intrinsèquement conflictuelle. Bon, alors, si vous voulez, du point de vue des idées, comme dit mon ami le président Badiou, l'idée communiste ou l'hypothèse communiste, c'est cette grande utopie qui évidemment a précédé Marx de très loin, dont les traces remontent, en tout cas sous ce nom-là, au moins au XVIe et au XVIIIe siècle, puis qu'ensuite Marx, Engels et d'autres ont repris à leur compte pour en faire le grand idéal du mouvement ouvrier de leur temps, et qui a fini par s'incarner évidemment dans des partis et des organisations. Bon. Mais il y a toujours eu des communistes en dehors des partis et des organisations en question, ceux qui n'avaient pas voulu y entrer, ceux qui en étaient sortis et ceux qui en avaient une conception alternative. Bon, alors moi j'ai été pendant 20 ans, entre 1961, c'est-à-dire vers la fin de la guerre d'Algérie, au moment où dans ma génération tout le monde cherchait la forme la plus efficace de d'engagement politique anti-impérialiste, jusqu'en 1981, un petit peu avant l'élection présidentielle, au moment où j'ai été exclu, on pourrait même dire je me suis fait exclure du Parti communiste français, un membre de cette organisation. Donc, d'une certaine façon, c'est pour ça que je disais à tort ou à raison, bon, pour certains, c'est un badge, c'est un titre de pas de gloire, mais enfin, disons, d'expérience. Et puis, pour d'autres, au contraire, c'est une tâche plus ou
une
moins... Une tâche plus ou moins... Quand j'ai voulu aller aux États-Unis en 1983, pour la première fois de ma vie... il a fallu que je demande un visa. On m'a demandé si j'étais communiste ou para ou homosexuel ou maladie transmissible, etc. C'était une seule question. J'ai dit oui. On m'a dit combien de temps avez-vous été au Parti communiste? J'ai dit 20 ans. On m'a dit pourquoi en êtes-vous sorti? J'ai dit mais je suis pas sorti. J'ai été exclu. Et on m'a dit ah mais c'est pire. Bon, mais enfin ce que tout ça c'est des anecdotes un peu idiotes. Ce que je veux dire c'est que évidemment depuis tout ça a beaucoup changé. Alors on a pu penser que cette idée n'avait plus aucune actualité. Je fais partie de ceux qui pensent le contraire, et donc d'une certaine façon je suis resté communiste et je tiens à le dire, mais beaucoup d'autres le sont autrement que moi.
Alors justement, ça pose la question de l'histoire des idées qui sont ancrées évidemment dans une période, et c'est quelque chose qui vous occupe notamment dans ce premier volume, Étienne Balibar, Histoire interminable d'un siècle l'autre, premier volume de vos écrits aux éditions La Découverte. Les idées sont inscrits dans ce que l'historien François Hartog appelle un régime d'historicité. Je vous propose de l'écouter.
L'histoire a été la grande croyance du 19e et d'une grande partie du 20e siècle. Au nom de l'histoire, on a fait beaucoup de choses en son nom. On a convoqué beaucoup de gens devant son tribunal. Et cette puissance, avec des attributs quasi divins de l'histoire, s'est effritée, pour le moins, dans la seconde moitié du 20e siècle et plus encore à la fin du 20e et au début du 21e siècle. Dans le courant des années 1970, fin des années 1970, on a commencé à voir le mot mémoire invoqué, évoqué, convoqué par toute une série de personnes, de groupes, et c'est devenu peu à peu le terme, le nom, le concept qui a emporté, d'une certaine manière, celui d'histoire, qui a supplanté celui d'histoire.
Voilà, l'historien François Artaud, c'est une vidéo qu'on peut voir sur le site de la librairie Mola à Bordeaux. Étienne Balibar, l'histoire qui emportait tout et qui petit à petit s'effrite, vous adhérez à cette idée?
Oui, je suis très content, vraiment très très content que vous nous ayez fait entendre ce petit texte, enfin cette déclaration de François Artaud, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et pour qui, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, de qui j'ai évidemment beaucoup appris. Bon, alors je me suis permis dans la préface, dans le texte d'introduction, qui est en même temps un petit essai philosophique, bien sûr, sur la question de l'historicité, de l'articulation entre l'histoire et la politique, de lui voler ou de lui emprunter, avec une reconnaissance de dette naturellement, son concept de régime d'historicité. Et en même temps, j'ai essayé de lui faire subir une petite variation. Bon, alors je pense que le point sur lequel on ne peut qu'être d'accord avec lui, non seulement celui qui concerne l'articulation de la mémoire et de l'histoire, bon, mais plus profondément l'idée que toute conception collective, individuelle mais collective et culturellement significative ou marquante de l'historicité combine une certaine représentation du passé, une certaine représentation de l'avenir et une certaine façon de les actualiser dans le présent. Bon, évidemment François Artaud a tout à fait raison de dire que nous sommes sortis à un moment ou un autre, relativement récemment peut-être, de cette grande représentation téléologique ou évolutionniste de l'histoire comme un cours uniforme, n'est-ce pas, qui mène de façon plus ou moins nécessaire de l'avenir dépassé pour toujours au futur souhaitable, soit catastrophique, dont nous serions en quelque sorte les maillons ou les instruments de transition. Et comme vous savez, il a tiré de l'idée que cette représentation était à laquelle Marx naturellement appartenait complètement, bon, et d'autres aussi, étaient aujourd'hui tombés en désuétude, le concept de présentisme, c'est-à-dire l'idée que nous vivons dans un présent qui est en quelque sorte obsédé uniquement par lui-même, par le court terme, par l'oubli immédiat des expériences du passé et l'absence de perspectives d'avenir. Bon, alors c'est sur ce point que j'ai essayé, en observant aussi d'autres références bien sûr, d'introduire des variantes. D'une part, donnez-moi juste une seconde de plus si vous voulez bien, d'une part en disant ou en suggérant, ce qui doit aussi quelque chose au travail de Jacques Ancière, que les régimes d'historicité sont moins uniformément périodisables que ça, si vous voulez. C'était, bon, et en particulier que ces façons spécifiques de nouer l'avenir et le passé pour en faire l'objet d'une activité présente sont liées à la trace de certains grands événements historique. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la trace de la guerre de 14, de la trace de la révolution russe, contradictoire comme chacun sait, de la trace de mai 68, de la trace de la décolonisation. Bon, mais d'un autre côté, j'ai aussi essayé, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, de me poser la question de savoir comment nous faisons face au fait que l'avenir qui marque déjà de toutes les façons possibles le présent dans lequel nous vivons aujourd'hui, est frappé d'une absolue incertitude entre la perspective de la catastrophe ou de l'effondrement que met à l'ordre du jour
le réchauffement climatique,
le dérèglement climatique et plus généralement la destruction de l'environnement planétaire, et d'autre part le renouveau ou je dirais le caractère increvable sous des formes évidemment très différentes de celles qu'elles ont été dans le passé immédiat, des espérances et même des mouvements de transformation de la société et d'alternatives au système de gestion économique et de domination dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc il y a cette tension extrêmement forte qui fait de la question de l'avenir non pas une question fermée mais une question question, ni non plus une question indéterminée, mais une question ouverte et profondément conflictuelle. Donc le lieu d'une sorte de bifurcation, dont nous ne savons pas si elle aura lieu, mais dont nous ne pouvons pas ne pas nous demander si nous en serons ou non plus ou moins les acteurs.
Mais alors justement, Étienne Balibar, qu'est-ce que c'est que cette période dans laquelle on est, cette période de transition? Vous ne parlez pas de mémoire, vous parlez bien d'histoire interminable, empruntant là à Sigmund Freud le titre d'un de ses essais.
Freud à travers Althusser, à travers vous aviez dit voilà. Tout à l'heure que je l'étais lié, je
bon, on fera pas cette généalogie si vous le voulez bien. En revanche, c'est vrai qu'il y a une tentative de définition à partir de votre propre expérience personnelle, mais aussi d'une réflexion sur l'époque de ce que cette période que nous vivons, cette période de transition, puisque il y a eu un court 20e siècle, pour reprendre l'expression de l'historien marxiste britannique Eric Hobsbawm, qui allait de 1914 jusqu'à 1989-91 à peu près, et on rentre petit à petit dans le 21e siècle à partir de 91, mais qui se réalise vraiment à partir de 2001 après le 11 septembre, mais dont on ne sait toujours pas très bien comment le caractériser. Alors il est de bon ton aujourd'hui de citer Antonio Gramsci, quelle que soit la personnalité et sa façon de penser. On aime bien citer Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, en oubliant souvent la fin qui dit et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Comment définir notre période, Étienne Balibar?
Je ne suis pas devin.
Je ne suis même parlons pas. Du présent, alors, si oui, vous
oui,
le voulez bien.
Oui. Mais évidemment, j'appartiens à une tradition de pensée qu'on peut être tenté de caractériser comme intellectualiste. Quelque chose à voir avec la passion du concept dont il est question dans l'autre recueil, et que évidemment je m'approprie pas moi tout seul, mais dont je cherche plutôt les exemples chez d'autres, bon, parmi lesquels figure ou pourrait figurer Gramsci, bon, dont le mot d'ordre est ou dont l'obsession, je serais tenté de dire, est en quelque sorte si obscur, si compliqué, si équivoque que soit la situation dans laquelle on se trouve, il faut essayer de comprendre. Hein, il faut essayer de comprendre. Bon, et moi je ne connais pas d'autres moyens pour comprendre que d'essayer de reconstituer des lignes de force. Et surtout, c'est ce qui vient de la tradition dialectique dont il faut faire l'usage le moins stéréotypé ou le moins mécaniste possible. Il faut mettre en évidence des contradictions. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire le présent dans lequel nous sommes est gros d'un avenir déterminé. Il faut se dire le présent dans lequel nous sommes est gros d'un avenir incertain, mais la nature des alternatives doit pouvoir faire quand même l'objet non seulement d'une spéculation, mais d'une analyse. Bon. D'où l'effort que je fais avec beaucoup d'autres, évidemment, pour caractériser sur la base d'un certain savoir ou d'une historique ou d'une certaine récapitulation des événements récents, le type de forces qui sont à l'œuvre dans ce capitalisme absolu qui est notre horizon actuel.
Alors vous parlez notamment, Étienne Balibar, dans la troisième partie qui est intitulée Conjecture, vous parlez de la naissance d'un monde sans maître après l'Empire, les marchés. C'est le sous-titre de cette partie. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une forme de crise de la démocratie, de crise de la citoyenneté qui se manifeste concrètement dans les mouvements sociaux, dans la rue, voilà, après les mouvements des Gilets jaunes.
Le monde sans maître, c'est pas la crise de la démocratie. Je serais presque tenté de dire, si vous voulez, que c'en est une condition de possibilité, parce que il appartient quand même à l'essence de la démocratie de ne pas se reconnaître ou de ne pas se soumettre à quelque chose comme un maître absolu. Le texte qui porte ce titre, bon, je le dis et je pense que les auditeurs le devinent, dans ce livre, la partie qui s'appelle Conjecture recueille des textes dans lesquels je suis conscient d'avoir dit beaucoup de sottises, d'avoir fait beaucoup d'hypothèses, parce qu'il fallait essayer de savoir où on en était, qui ne tiennent pas tout à fait la route, ou qui en tout cas ont besoin de sérieuses corrections. Bon, alors là, il s'agissait de la sollicitation du journal Libération en 2011, et puis ensuite j'ai un peu étendu les choses, de dire 10 ans après ce qui s'était passé au moment de l'attentat des Twin septembre. Towers et du 11 septembre 2001. Hein. Soit dit entre parenthèses, d'ailleurs moi je ne peux jamais, je le dis quelque part dans le livre, je ne peux jamais penser au 11 septembre 2001 sans que vienne à ma mémoire l'autre 11 septembre dont parle du le Chili. Grand écrivain chilien Ariel Dorfman qui en a été le témoin, c'est-à-dire le 11 septembre 73, celui du coup d'État de Pinochet, manigancé par Kissinger, etc., etc. De sorte que inconsciemment, au moins, la question que je me pose en réalité, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'après 73, si vous voulez, et l'après 2001. Alors, on pourrait dire que l'après 73, bah, effectivement, c'est la mise en place d'un système impérial, apparemment tout puissant. Negri et Hart ont appelé leur livre Empire, d'autres ont utilisé cette expression, qui non seulement généralise ou se prépare à généraliser l'empire du capitalisme nouveau à la Terre tout entière, mais qui le tient fermement en main parce que il y a une puissance hégémonique qui est à la fois financière, militaire, idéologique, etc. Bon, et naturellement le 11 septembre 2001, c'est pas l'effondrement pur et simple de cette puissance. Et d'ailleurs, suivant les jours, aujourd'hui même, on voit bien que les commentateurs sont tentés de dire ou bien vous voyez le déclin américain s'accélère, ou bien au contraire ah ben non, ils sont pas si impuissants que ça, etc. Bon, enfin, je crois quand même que quelque chose a changé fondamentalement, c'est le désordre planétaire auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de structure hégémonique verticale qui fasse ruisseler de haut en bas la contrainte absolue qu'elle exerce sur les mouvements des peuples. Bon, et ça, c'est pas du tout une condition suffisante pour qu'on vive en démocratie, évidemment. Bon, mais c'est quand même à certains égards une condition nécessaire. Et de ce point de vue, on peut dire en effet avec Gramsci qu'on est dans une sorte d'interregnum. Seulement, l'alternative ne surgira que si, évidemment, des forces positives, instituantes, comme disait Castoriadis, constructives, on pourrait dire, d'une autre façon, c'est-à-dire capables effectivement de mettre en œuvre dans leur pratique et de cristalliser dans des idées une autre société que celle-là, un autre monde que celui-là, acquiert suffisamment de force et de cohérence. Et ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas joué.
Alors, un autre élément que vous relevez dans cette époque qui est la nôtre, cette histoire interminable, transition du 20e au 21e siècle, Étienne Balibar, c'est la violence extrême. C'est un intérêt sur la violence. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes intéressé à 1914. Oui. C'est un texte important, mais c'est évidemment un regard aussi sur ce que d'autres ont pu appeler l'ensauvagement du monde, l'ensauvagement de la politique aujourd'hui.
Mais vous citiez Hobsbawm tout à l'heure et son livre où il avance la notion de cours 20e siècle, mais comme
on parle d'âge des extrêmes,
sans doute, ce livre s'appelle L'âge des extrêmes, hein, The Age of Extremes. Ce qui est intéressant d'ailleurs et révélateur, je le rappelle quelque part dans une note, c'est que les livres précédents d'Hobsbawm, que tout le monde considérait, même s'il était marxiste, comme un très grand historien, avaient été publiés avec succès par de très grandes maisons d'édition françaises, L'âge du capital, L'âge de l'empire, L'âge, etc. Et puis alors, quand celui-là est arrivé, les éditeurs n'en voulaient plus. Bon, c'était pas du tout au goût du jour. Donc, il a été obligé d'aller le publier chez un petit éditeur militant belge, qu'il faut remercier, bien entendu. Bon. Mais, revenons au livre. Si vous voulez, la thèse de Hobsbawm, évidemment, qui n'est pas originale, mais qu'il documente, c'est que le XXe siècle est caractérisé par une sorte de guerre civile mondiale. Et comme chacun sait, les guerres civiles, alors c'est une guerre civile qui n'est pas simplement binaire, c'est pas juste la guerre froide, c'est plus compliqué. Dans la grande époque des années 30, elle se jouait, et encore après, elle se jouait à trois, c'est-à-dire le capitalisme libéral, le communisme et le fascisme ou le nazisme. Question de grande actualité, évidemment, puisque le nazisme, peut-être pas, mais le fascisme remonte sous nos yeux à toute vitesse. Bon. Et il avait repris à son compte et développé à sa façon l'idée que, pour cette raison, parce que les guerres civiles, comme chacun sait, sont encore plus cruelles que toutes les autres, on avait assisté au surgissement de formes de violence qui transgressaient les seuils considérés comme acceptables. Bon, tout ça peut se discuter, évidemment. Bon. Alors évidemment, la question que beaucoup se posent, et que moi je me pose, en tout cas avec une certaine angoisse, c'est de savoir si le XXIe siècle ne sera pas encore plus violent que le XXe. Mais ça sera probablement pas, enfin, qui sait, hein. L'âge des guerres peut revenir, hein, et puis il y a de nouvelles technologies qui rendent possible la diffusion des guerres soi-disant de basse intensité, qui sont des guerres d'extermination, en fait. Bon. Mais il y a d'autres formes de violence qui sont non moins redoutables, hein, évidemment. Bon. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde dans lequel il y a des zones de mort, dont certaines sont dues à des guerres civiles, mais dont les autres sont dues à des épidémies qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas contrôler, et dont certaines sont finalement directement conséquences de la dégradation de l'environnement dans lequel nous vivons.
Étienne Balibar, le philosophe Étienne Balibar, est l'invité de La Grande Table. Il est 13h20 et on parle de ses écrits publiés aux éditions La Découverte.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Vous venez d'évoquer, Étienne Balibar, la question de la guerre civile européenne, qui est le terme qu'on emploie souvent pour la Première Guerre mondiale.
Historiens de camp très opposés l'ont utilisé à tour de rôle. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Si vous voulez, il y a Hobsbawm qui est un marxiste, et puis il y a des post-fascistes comme Nolte, et puis il y a des libéraux, etc. Donc c'est un concept à la fois contesté, contestable, mais éclairant.
Et précisément, aujourd'hui, on entend revenir ce terme de guerre civile dans le débat en France. Je pense par exemple à Nicolas Bavresse qui l'emploie en disant qu'on serait en France au bord de la guerre civile. Et ce qui est pointé du doigt, c'est une forme de séparatisme. Vous avez beaucoup réfléchi, et très clairement, disons les choses comme elles sont, de séparatisme musulman. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions, justement, la question de l'universel, la question... Vous levez les yeux aussi.
Non,
vous préparez votre réponse,
Étienne
Balibar. Non, mais justement, je voulais vous entendre sur cette question-là,
je lis pas tout ce qu'écrit Nicolas Bavresse. C'est incontestablement quelqu'un d'intelligent, d'instruit, de très fort, etc. Mais il y a quelque chose d'obscène dans une déclaration de ce genre, je trouve. Hein, surtout venant après les épisodes historiques que nous venons d'évoquer, et après que j'ai été amené à dire que le fascisme était peut-être en train de relever la tête, etc. etc. Nous ne vivons pas... Il y a des pays dans le monde aujourd'hui qui vivent dans des situations de guerre civile. C'est pas le cas de la France. Hein. Bon, la France est en effet en train d'entrer, depuis quelque temps déjà, dans quelque chose d'inquiétant qui existe un peu partout en Europe sous des formes diverses, qui est l'ingouvernabilité. Bon, mais l'ingouvernabilité, c'est pas la guerre civile. Ça peut la faire redouter, mais on n'en est pas là. Bon, et évidemment, il faut se poser la question de savoir pourquoi la France est ingouvernable. Alors, c'est peut-être parce que certaines des contradictions de la société française ont atteint une certaine limite ou dépassé certains seuils. Mais c'est peut-être aussi, et c'est évidemment, vous en doutez, ce que je pense, parce que on essaie de la gouverner d'une façon qui est incompatible avec les véritables besoins et les véritables demandes de la société française. Alors, quant à identifier le soi-disant séparatisme, ça, bon, on a eu le communautarisme, maintenant on a le séparatisme, c'est le dernier mot à la mode pour désigner l'ennemi intérieur et identifier à cet ennemi intérieur, non pas les terroristes qui existent, en effet, sans aucun doute, mais ladite communauté musulmane, ou on dit quelquefois aussi arabo-musulmane, c'est-à-dire des quantités de citoyens français de religion ou d'origine nord-africaine, ceux qu'autrefois on appelait justement les musulmans, ou plus un certain nombre d'étrangers vivant en France, comme il y en a beaucoup d'autres, ça c'est un discours de pouce au crime. C'est un discours qui est précisément destiné à fan the flames, comme on dirait en anglais, à
nourrir la
souffler sur les braises, de façon à faire surgir en France, au-delà des conflits qui existent aujourd'hui, il y en a de toutes sortes, hein, et pas seulement dans les banlieues, des phénomènes de violence raciste.
Mais il y a aussi un conflit d'interprétation théorique. historique, Étienne Balibar. Aujourd'hui, on voit s'affronter différents courants sur la notion d'universel,
par exemple.
Et la notion d'universalisme. Et vous avez pris position très fortement sur ce sujet en disant il est possible de dire il y a un universalisme et une approche de la laïcité qui sont devenus des discours d'exclusion. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu, parce qu'on a souvent justement réduit votre pensée à cette formule.
Je vous remercie de me poser la question. C'est pas directement l'objet des textes qui sont dans les deux recueils dont nous parlons,
mais notre discussion nous fait penser.
Et c'est une transition tout à fait normale. Bon. Alors, d'abord, je voudrais que les choses soient tout à fait claires. Je me veux et je me crois non pas un adversaire de l'universalisme, mais au contraire un défenseur, un promoteur, un théoricien de l'universalisme comme valeur fondamentale, non seulement intellectuelle, morale, mais aussi politique et ainsi de suite. Donc pour moi, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'universalisme, mais c'est de savoir comment on le comprend. Hein, bon, évidemment, sur ce point, vous l'avez bien vu, à toutes sortes de débats très intéressants qui se développent depuis plusieurs années déjà. Non seulement il n'y a pas une seule conception, mais il y a des choix à faire. Bon, et en particulier, il y a un choix à faire sur la question de l'héritage des Lumières ou de la combinaison de l'héritage des Lumières avec, disons, le passé colonial de la civilisation européenne et d'un État comme la nation française. C'est très intéressant de discuter sur ce point avec de grands intellectuels africains, par exemple, comme Achille Mbembe ou comme Souleymane Bachir Diagne, etc. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas les adversaires de la philosophie des Lumières en général, hein, mais qu'ils ont évidemment une conscience aiguë du fait que cette philosophie a été simplifiée et instrumentalisée au service d'une conception de l'assimilation et de l'uniformisation et de l'homogénéisation des cultures du monde qui ne leur laisse aucune place et qui est une voie sans issue pour le monde dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui, dans lequel la tradition de la pensée européenne a toute sa place, mais à condition de dialoguer et d'échanger avec d'autres. Quant à la laïcité, permettez-moi d'ajouter un seul mot sur ce point. La situation est la même. Ce que je trouve, naturellement, la question se pose de savoir de quelle façon la République française, qui était une République impériale, s'est construite autour du parlementarisme, de la laïcité, de l'armée de conscription et d'autres institutions fondamentales. Bon, elle porte tout l'héritage contradictoire et conflictuelles de cette histoire nationale, mais elles ne sont pas en tant que telles, en tout cas pour ce qui concerne la laïcité, oppressive ou discriminatoire, sauf si on commence à les utiliser de cette façon. Bon, donc j'ai écrit moi un texte parmi d'autres au moment de l'affaire du Burkini, mais Jean Bobéro et d'autres ont écrit des choses très très semblables. J'ai simplement peut-être voulu pousser le bouchon un tout petit peu plus loin sous la forme d'un titre que je crois j'avais utilisé dans Libération à cette époque, laïque ou pas français. Bon.
Merci beaucoup Étienne Balibar, on avait encore beaucoup beaucoup de questions à vous poser, on aurait pu faire durer cette conversation bien longtemps, mais que voulez-vous, c'est la loi de la radio, à un moment il faut que ça s'arrête. Étienne Balibar, donc vous publiez Histoire interminable d'un siècle à l'autre, un recueil de vos écrits aux éditions de La Découverte, citons aussi Passion du concept, et on attend les 4 autres volumes. Merci beaucoup à toute l'équipe pour la grande table culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, pour la grande table idée, Bruno Barada et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Philomène Vuillard et de Marceau Vassy. À la réalisation aujourd'hui, c'était Philippe Baudouin, et à la technique Jordan Fuentes. Je signale, puisque vous le citiez, qu'Achille Mbembe, qui publie donc Brutalisme aux éditions de La Découverte, sera l'invité de la grande table d'Olivia Gesbert la semaine prochaine.